Vous écoutez Infusion Positive, un podcast où Estelle et Catherine diffusent des clés sur le bien-être et le bonheur. Bonne écoute!
Bonjour Estelle!
Bonjour Catherine!
Et bienvenue à vous qui nous écoutez pour ce nouvel épisode dans lequel on va aborder, pour une infusion positive, une thématique pas forcément très joyeuse, mais qui fait partie intégrante de notre vie, la tristesse. Cette émotion qui nous permet d'accepter la perte. Et la tristesse nous ramène à l'impermanence. L'impermanence de la vie, l'impermanence des relations, de certaines choses que l'on a et que finalement on peut perdre, qui peuvent être matérielles également. La tristesse nous ramène à cette réalité et nous permet de traverser ces réalités qu'on va vivre tout au long de notre vie.
Et comme toute émotion, on a toujours un peu le même discours, hein, de vous rappeler que elle est normale. Parfois, comme elle est désagréable, hein, on a envie de dire c'est pas super agréable d'être triste et de sentir ce désespoir, et donc on a juste envie de passer à autre chose. Mais pourtant, à nouveau, elle nous informe. Cette émotion, elle nous dit qu'on vient de vivre une perte, quelle qu'elle soit, quel que soit le degré, et qu'on a un besoin de réconfort, de sécurité, de soutien, d'affection, d'attachement. Ça vient parler aussi de notre attachement. Parfois on a besoin d'être seul, parfois on a besoin de pleurer. Très souvent les larmes sont associées à la tristesse. Pour certains c'est facile d'exprimer et de pleurer librement, pour d'autres c'est plus compliqué, on va peut-être l'aborder après. C'est une émotion, quand on arrive à s'y connecter, c'est vraiment un processus qui va nous aider à dépasser finalement la douleur de la perte. Un peu ce qu'on abordera dans l'épisode sur la résilience, l'idée de pouvoir être guidé par cette tristesse pour pouvoir dépasser cet état de tristesse et finalement créer un renouveau.
Mais c'est une émotion qu'on n'aime pas trop. Très souvent, on se bloque à sa tristesse parce que ce n'est pas très agréable, vraiment, de ressentir cette tristesse. Donc, il y a cette réalité-là. Et en plus de ça, selon notre éducation, on nous a aussi un petit peu éduqués à couper. Ah mais bon, pleure pas.
Sois fort.
Sois fort. Et combien même on a des parents aimants, soutenant tout ce que l'on souhaite, quand en tant que parents ou nos parents, si nous l'ont nommé souvent de cette manière-là, ces drivers font que ça nous a pas invité à vraiment vivre pleinement notre tristesse. Moi, je pense à ma situation personnelle où justement c'était plutôt sois fort, allez on est fort, allez go on avance, il y a toujours plus grave, on va pas s'arrêter sur ce petit, c'est pas si grave que ça, de cette relativité de la tristesse. Mais en fait chacun quand il vit sa tristesse, elle est subjective. Et oui, parfois on peut se dire mais l'état dans lequel elle se met pour si peu. Mais en fait, pour cette personne, c'est important d'avoir pu observer, par exemple, des personnes dans son entourage s'empêcher de pleurer, s'empêcher de ressentir. Donc, tous ces neurones, ces miroirs, hein, quand on grandit dans un foyer avec des parents qui ne s'autorisent pas à exprimer leur tristesse à travers des larmes, à travers tout le processus qui accompagne la perte, bien, ça nous renvoie, en tant qu'enfant, à... Je n'ose pas l'exprimer.
Exact.
Mais vraiment, oser pleurer, c'est déjà une étape quand on vit la tristesse.
Merci pour tout ce que tu as dit. Il y a déjà plein de points importants et ça me fait penser juste le dernier point qui a aussi des aspects culturels. Il y a des cultures, on a parlé des drivers du soi fort, mais parfois même dans certaines cultures ou certaines même religions, la place qu'on donne aux émotions est totalement différente. Donc déjà de comprendre d'où je viens et quelle est la place qu'avait l'émotion dans ma famille, dans ma culture, dans ma vie. Et aujourd'hui, comment je deal avec ces émotions et quelle place moi j'accorde à ma tristesse notamment. Et ce que tu décris dans le « sois fort » et « ne pleure pas », ça va amener un processus qu'on appelle d'auto-interruption. Je vais tout le temps interrompre mes émotions que je trouve douloureuses, désagréables, parce que c'est pas agréable de pleurer, parce que j'aime pas ressentir ça. Donc c'est comme si mon cerveau il se conditionne à dire « ah, ça je stoppe, non, on n'en parle pas, tout va bien, la vie est belle » et puis je me coupe totalement de ce que je ressens. Et je peux me couper à un point où vraiment consciemment je dis non mais moi je pleure jamais, je suis pas triste, tout va bien, je ne connais pas ça, et en le pensant sincèrement. Alors parfois ça peut être suite à des traumatismes, il y a des personnes qui ont vraiment vécu des traumas psychiques importants et ce qu'on appelle des stress, le trouble du stress post-traumatique qui peut amener à une coupure totale comme ça des émotions et notamment de la tristesse qui est souvent en lien avec l'attachement, la perte, et c'est une émotion qui est devenue tellement douloureuse que la personne a appris à couper. Mais ce qu'on voit, c'est que parfois, c'est le corps qui va manifester de plein d'autres façons cette émotion qui a été refoulée, comme ça, qui a été interdite d'être exprimée. Le corps va mimer ça autrement. Et parfois, c'est des maladies plus somatiques qu'on appelle, psychosomatiques, où il y aura des réactions autres. Parfois, c'est dans une souffrance psychique terrible. Mais pour dire que de se retenir de pleurer et de bloquer peut mener très loin, malheureusement. Alors, sans être dans cet extrême, là, on parle d'une extrême, mais c'est pas le lieu de ce podcast. Mais en tout cas, ça ramène à cette importance de se connecter à cette émotion, à nouveau de comprendre quel est le besoin derrière cette émotion. Ok, je pleure, je suis triste, quelle que soit l'information, suite à une rupture, suite à un deuil, suite à une mauvaise nouvelle que j'ai appris pour quelqu'un, ça me rend triste, je suis triste par empathie, compassion pour mon ami. J'ai besoin de quoi ? Et comment je vais m'autoriser à exprimer peut-être des larmes ? À savoir que les larmes, physiologiquement, le fait de pleurer de tristesse, ça va éliminer les toxines du stress. On dit que dans les larmes, on peut analyser qu'il y a des hormones du stress qui sont présentes. Et il y a aussi un effet d'antidouleur. Donc c'est intéressant de voir que, à nouveau, notre corps a plein de choses incroyables qui sont mises en place et que ces larmes, physiologiquement, vont nous aider à dépasser l'épisode de douleur.
C'est intéressant ce que tu dis, j'avais aussi entendu que ces larmes, on peut physiologiquement analyser, ça peut, dans ce cas-là, c'était des larmes avec des hormones telles que, dans ce que tu dis là, c'était des larmes...
L'hormone de stress, de stress, tension.
Voilà, de cortisol, peut-être. Exact. Et il y a aussi les larmes d'ocytocine, oui. Justement, ces larmes
de joie.
De joie. Ça me fait aussi, je souhaite aussi aborder avec toi, donc en termes de temporalité, qu'est-ce qui est... normal, si je peux dire, dans la durée en fait où je vais vivre ma tristesse, pour pas sombrer dans un état durable, voire dépressif par rapport à ce que je vis.
Alors, la temporalité, elle peut être surprenante, parce que quand on regarde des critères pour poser les critères d'une dépression, on peut avoir des symptômes, alors je ne vais pas les lister tous ici, mais 2 semaines de ces symptômes peuvent suffire pour poser un diagnostic de dépression. Alors, ça peut choquer en disant, mais attends, on peut être triste 2 semaines, c'est normal. Mais en fait, il y a tout de suite toute une ribambelle d'autres symptômes associés qui ne sont pas juste la tristesse. Le fait de pleurer un être cher, quand on parle par exemple d'un deuil, pareil, il y a au niveau de la définition ce qu'on appelle le deuil pathologique. À partir de quand ça devient des réactions qui sont plus tout à fait normales. Alors moi j'ai du mal avec cette définition du deuil pathologique parce qu'elle est assez courte en termes de temps, alors que ce qu'on voit dans les faits, c'est on parle souvent plutôt d'un cycle d'au moins 1 année. Pourquoi 1 année ? Parce que par exemple si j'ai perdu un être cher, toute l'année, les événements de l'année vont me rappeler « Ah oui, il y a 1 année, on faisait Noël ensemble. Ah oui, ça c'était son anniversaire. Ah, ça c'est le moment où... » Comme si je devais revivre ce cycle complet qu'on a vécu ensemble pour pouvoir construire une nouvelle étape. Donc, il y a ce que définit la science, que définissent des critères psychiatriques pour définir la pathologie. Mais à nouveau, aujourd'hui, moi, ce que je trouve important, c'est plutôt de se dire, tant que cette émotion de tristesse est en train d'aider à dépasser quelque chose, c'est qu'elle a sa place et qu'elle continue de me raconter que j'ai besoin. Par contre, si je n'arrive pas à répondre à ce besoin de réconfort, de soutien, que je prends justement de plus en plus de risques de m'isoler, je me sens bien dans ma solitude et je vois que c'est ça dont j'ai besoin, mais en fait cette solitude elle a aussi un risque, c'est plus je vais m'isoler, plus je risque de sombrer en dépression.
Oui, donc c'est, okay,
c'est un cercle vicieux aussi.
C'est ok d'avoir un moment besoin effectivement d'être seule, parce que des fois on a juste envie qu'on nous fiche la paix.
Exact.
Par contre, ça ne devrait pas être durable.
Exact.
Ça ne devrait pas s'éterniser.
Exact. En fait. Mais sans être dans quelque chose de trop carré. Moi, je trouve que c'est important de vraiment se laisser cette liberté et sentir...
Par contre, ça fait quand même du bien, quand on vit ces épisodes de tristesse, de se changer les idées, parce que... C'est pas pour invalider ce qui se passe, mais c'est juste que dans l'expérience que j'ai pu vivre avec la tristesse, c'était aussi de se dire, mais je ne suis pas tristesse. Hein. J'ai le droit aussi de vivre d'autres moments et puis de sortir de cet état.
Mais je peux être en train de vivre un deuil ou par exemple une rupture. Pour changer de sujet, je viens de vivre une rupture sentimentale, je suis triste. Puis en même temps, je peux éclater de rire avec une copine la même journée où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Comme tu dis, je ne suis pas tristesse, mais j'ai des états, des moments moment où cette émotion m'envahit et me rappelle à ma perte, à mon lien d'attachement qui est rompu et tout ce que ça vient toucher en moi. Et en même temps, je continue de vivre d'autres choses. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et parfois, on peut être choqué de dire « Waouh, mais attends, il a rigolé alors qu'il vit une perte. » Alors peut-être que des fois, c'est un peu pathologique, entre guillemets, parce que la personne se dissocie, se coupe de ses émotions. Mais c'est aussi tout à fait normal d'avoir des moments où on peut vivre d'autres choses de manière plus légère et heureusement. Et c'est ce qui permet petit à petit de rebondir, d'ailleurs.
Et aussi par étapes, évidemment. Mais il y avait aussi un élément où je me rappelle d'une perte que j'avais vécue. Et c'était très difficile pour moi d'avoir à chaque moment de ma journée au travail ces regards ultra compatissants. Mmh. Bien sûr qu'ils partaient de bienveillance, etc. Mais d'être connectée à chaque moment par ce regard ou ces petits gestes, etc. Et c'était pas ce que j'avais besoin. Mm-hmm. Là, en fait, je savais que j'allais avoir mon moment de pleurs en fin de journée en rentrant chez moi. Mm-hmm. Je savais que je me suis fait accompagner pour vivre cette perte. Enfin, donc, je prenais soin de ma tristesse. Et les personnes, en fait, me renvoyaient à chaque fois à cet état. Mmh. Et ils me replongeaient dans « mais ouais, c'est horrible ce que je suis en train de vivre ». Mmh. Donc, à quelque part, quand on parvient aussi à affirmer, en fait, de quoi j'ai besoin, et puis là, j'ai pas réussi à le faire sur le moment, mais aujourd'hui, si je devais revivre ça, effectivement, je mettrais une limite. Je nommerais à mon équipe « ben voilà, je vis ça, j'ai besoin de quoi j'ai besoin pour pas, en fait, être dans cette... cet état qui me mettait inconfortable, en fait. C'était insupportable pour moi.
Ouais. Et ça, c'est déjà une clé que tu nommes qui est importante et qui rejoint cette connexion à mon besoin, mais déjà de pouvoir l'exprimer, exprimer aux autres. Et je donnerai cette clé aussi à vous si vous êtes le proche. Comment accompagner au mieux un proche qui vit une tristesse ? Demandez-lui de quoi il a besoin. N'allez pas décider pour lui. N'ayez pas ce sentiment de compassion qui vous mène à une forme de pitié et qui met cet inconfort. Mais en tant que proche, osez dire « je suis là, sache que je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de parler ou au contraire de silence, si je peux t'aider à faire à manger, si je peux t'aider à... » Pensez juste en termes de présence, de soutien, mais sans faire et décider pour l'autre.
Voilà Estelle, quel sera ton mot de la fin pour conclure cet épisode sur la tristesse ?
Bah, peut-être se rappeler que la tristesse est une émotion normale et un processus de guérison pour aller mieux quand on vient de vivre une perte. Donc vraiment se rappeler que c'est un tremplin et qu'il faut la vivre et s'asseoir avec sa tristesse. Merci beaucoup Catherine et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci Estelle et on vous souhaite une bonne infusion. Et si cet épisode vous plaît et que vous souhaitez approfondir des thématiques que nous abordons dans nos podcasts, nous organisons régulièrement des workshops.
Et nous pouvons également en organiser sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante info@ineza.ch. On aura le plaisir de répondre à vos demandes.